Good Morning Business, le grand débat.
Et nos invités ce matin, c'est Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise, François Cholet, président de Montségur Finance, et Philippe Vivien, directeur général d'Alixio. Merci à tous les trois de débriefer avec nous l'actualité de ce matin qui est très riche. On va commencer notamment effectivement par le climat social qui nous inquiète ce matin.
Absolument, climat social compliqué, puisque aujourd'hui la question qu'on se posait depuis ce matin, c'est avec qui on négocie dans un pays où les syndicats n'ont plus le poids qu'ils avaient avant, où on voit des mouvements sociaux venir de corporations, de groupes professionnels. Philippe Vivien, vous, c'est votre spécialité, la négociation. Aujourd'hui, si on veut faire passer la réforme des retraites, avec qui on parle?
D'abord, les premiers avec qui on va parler, c'est quand même les partis politiques.
Ah oui, ça, c'est pas beau.
La réforme des retraites, elle passe d'abord par la loi.
Ouais.
Et ça va être le premier sujet. Et une fois qu'on aura commencé à avoir une vision assez claire de ce qui doit être cette réforme, et souvenez-vous, on est en train de nous rappeler, il n'y a pas de totem, 64, un peu moins, les carrières longues, la durée de cotisation, tout ça va jouer dans ce premier système.
Mais on sait à peu près, enfin la messe à peu près dite, on sait que le gouvernement veut quand même aller sur l'âge, sur 64,
oui,
65 ans.
Mais après la question, c'est l'âge tout seul, ouais. L'âge avec, je dirais, une augmentation de la durée. Et dernier sujet qui est quand même le plus important, que tout le monde oublie, c'est la progressivité. Est-ce que c'est l'âge demain matin? Est-ce que c'est l'âge en 2030? Est-ce que c'est l'âge en... Voilà, qu'est-ce que ça va signifier? Et c'est vraiment ça qui va être le sujet. Et évidemment, les organisations syndicales, on voit bien les concertations qui vont encore avoir lieu aujourd'hui et dans les prochains jours et les prochaines semaines.
Concertation, le mot est un peu fort. Hein. Et on va leur présenter la réforme, non?
On va leur présenter, je pense qu'il y aura des choses qui seront débattues.
Ah ouais.
Enfin, le fait qu'on ait laissé ouvert un certain nombre de portes font qu'un certain nombre de choses seront débattues. On va aller jusqu'au bout de ce qui est possible d'aller, avec une difficulté pour la première fois. C'est que vous avez vu que pour la première fois, il y a une sorte de front syndical en rentrant dans la salle.
Ben oui.
Ce qui n'était pas le cas précédemment.
Donc on va voir. Ils ne sont pas d'accord avant de commencer. Donc
On va voir comment tout ça va se mettre en musique.
Arnaud Marion, vous qui êtes spécialiste des entreprises en difficulté, mais qui êtes habitué quand même au dialogue social, aujourd'hui à l'intérieur des entreprises, avec qui on négocie? Puisque les syndicats ont moins de poids, qu'on voit ces conflits sociaux apparaître un petit peu de partout, est-ce que c'est pas difficile d'identifier d'où va venir, pas le coup, mais en tout cas le mécontentement?
Le problème, c'est qu'on a un focus qui est toujours lié à des très grandes entreprises. On a vu Total, on a vu la SNCF, souvent soit très grandes entreprises, soit liées un petit peu à l'État. Et c'est pas du tout la réalité sur le territoire et à travers les entreprises. Je pense que on travaille avec tout le tissu économique français à travers les territoires. Il y a zéro problème dans les entreprises, même des entreprises, des grosses ETI d'une certaine taille, pour savoir avec qui dialoguer. Et moi, j'ai vu beaucoup de dossiers cette année, à la fois en restructuration, en transformation, mais également à travers mon activité d'investissement. Je peux vous dire que on voit beaucoup de fluidité dans les rapports sociaux. Donc il faut faire attention à l'idée qu'on en a et à la place médiatique.
Ça va mieux que ce
qu'on
croit.
Ça va beaucoup mieux que ce que l'on croit.
Ça veut dire que là encore, Philippe Vivien, on a l'impression qu'il y a un décalage entre la macro et la micro. C'est-à-dire que la macro, on nous parle de mèche sociale, de la réforme des traites, etc. Et puis sur le plan micro, d'abord, les entreprises nous disent qu'elles vont bien. Globalement, économiquement, on était encore avec Bruno Bouygues tout à l'heure qui nous disait, mais attendez, mais moi, je vais même baisser mes prix, ouais. Il nous disait. Le climat social aussi, qui dans les entreprises est plutôt bon.
Mais le climat social des entreprises n'est pas mauvais du tout, et vous l'avez vu. Enfin, on a vécu une année avec une inflation record, un nombre d'entreprises qui ont négocié extrêmement important, des niveaux d'augmentation négociés, d'ailleurs qu'il y ait accord ou pas, mais des niveaux d'augmentation négociés élevés, qui ont permis justement de maintenir ce climat social. Et effectivement, alors c'est pareil, quand on parle de dialogue social au niveau macro, on a toujours tendance à parler des trois ou quatre grandes entreprises qui peuvent, paranationales ou publiques, qui peuvent bloquer le pays.
Ouais.
Le pays fonctionne, le taux de grève dans les entreprises moyennes est très faible, et je pense qu'il faut rappeler aujourd'hui que les entreprises ont largement accompagné toutes ces transformations, ont accompagné l'augmentation, des prix, et ça fonctionne aujourd'hui. Donc il y a toujours ce grand décalage entre le discours politique et le discours tel qu'on le voit de manière macro et la réalité du terrain.
Arnaud Marion, est-ce que vous voyez de plus en plus de dossiers liés à des factures énergétiques arriver sur les bureaux ?
Écoutez, c'est pas la majorité. Enfin, je vais peut-être décevoir par rapport.
Mais
à
on en voit des boîtes. On voit William Sorin qui s'arrête. Voilà. On a eu Duralex, oui. Arc.
Voilà, on a eu un certain nombre d'entreprises qui utilisent beaucoup d'énergie. Moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises industrielles cette année. Elles ont passé en moyenne 3, 4, 5 hausses de tarifs, ouais. Hein, notamment dans l'industrie. Elles n'ont pas eu de mal à répercuter. Je crois que toute la chaîne de valeur, tout le monde a joué le jeu sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de se focaliser sur des symboles. Et c'est comme, si vous vous souvenez, au moment de la crise du Covid, sur les aides sur le commerce. Ça n'a pas été bien calibré dès le début. La vraie question gouvernementale, c'est un peu ce qui s'était passé avec les restaurants, vous savez, où au bout d'un moment, on a dit, bon, ok, jusqu'à 10 000 euros par mois, on vous indemnise de 10 000 euros, et puis ensuite, c'était beaucoup plus plafonné. Je crois qu'il va falloir en venir là-dessus. On peut pas laisser symboliquement des boulangers fermés.
Oui. Ça, c'est le vrai dossier quand même. Hein,
le aussi, c'est les boulangeries, en fait.
L'explosion du coût de leur facture d'électricité, parce
absolument.
Que les fours, effectivement, pour cuire le pain, sont très, très consommateurs d'énergie. Et ils sont souvent au-delà hein, du seuil des 30, le seuil de 30 mégawatts de consommation. Et donc, ils n'ont même pas d'aide, en fait. C'est vraiment un sujet très sensible, hein, ce sujet des artisans et des boulangeries.
Oui, parce que c'est à la fois l'artisan boulanger en tant qu'employeur et c'est l'image que l'on a, nous, en tant que consommateur, de la proximité.
C'est un peu le bar tabac de 2023, c'est-à-dire c'est là où tous les Français se rendent tous les jours et qu'ils vont entendre les difficultés rencontrées par leur boulanger. Hein.
Et puis le pain a toujours eu, depuis la Révolution française, bien évidemment, cette vision extrêmement symbolique. On ne peut pas du tout laisser faire ça. C'est comme tout. Plus l'entreprise est grande, sauf des exceptions, on parlait de Cofigeo, on parlait de Arc, de Duralex, etc.
C'est William Sorin, oui.
Plus William Sorin, Cofigeo, c'est le groupe, mais voilà, William Sorin. Plus, effectivement, elle a, à part des exceptions, elle a la capacité de répercuter des coûts. Plus l'entreprise est petite, plus c'est compliqué. Les restaurants auront tous du mal avec leur facture énergétique.
François Chollet, est-ce que cette épée de Damoclès de la crise sociale est pris en compte par les investisseurs financiers? Est-ce que c'est le risque français? C'est qu'avec la réforme des retraites, on déclenche une crise sociale qui compromette le redémarrage?
Je ne pense pas que les marchés, sur leur niveau actuel, tiennent en compte une crise sociale à venir sur l'économie française. La réforme des retraites, elle va dans le sens de ce qui a été promis par la France à l'Europe depuis longtemps, un alignement, comme on a aligné les taux de fiscalité, comme on a aligné un certain nombre de marqueurs forts de convergence économique de la France avec ses partenaires européens. La retraite doit passer aussi dans cet alignement. Alors, l'âge de départ, c'est la façade. Le nombre d'années de cotisation sera la réalité que vont traverser les Français et les prises en compte des pénibilités, des carrières longues, des carrières hachées, etc., seront des éléments clés. Mais on va y aller et on sait qu'on va finir par y aller. Et d'ailleurs, on y est déjà allé puisque les augmentations de durée de cotisation, elles sont effectives et elles font que des gens de ma génération, par exemple, qui ont fait des études un peu longues, n'ont aucune chance de partir à la retraite à l'âge légal à taux plein. Donc, c'est déjà réglé pour une bonne partie des Français. Après, on a une année 2022 de profit exceptionnel en Europe et en France. Ces profits qui ont été tirés aussi par des gains de change, mais par une activité qui a été très bonne. Et autant je m'insurge contre le dividende salarié, on en a parlé ensemble sur ce plateau, parce que le vocabulaire ne me convient pas. En revanche, on a des régimes aujourd'hui de retraite personnelle, le fameux PER individuel, qui rencontre un franc succès. On a du PER collectif dans les entreprises. On a des régimes d'intéressement et de participation, des mots que j'aime mieux que le dividende salarié. Et clairement, la participation, ce serait peut-être une bonne idée dans le même temps où on va dire votre retraite va être un peu décalée. Voilà, mais peut-être qu'on pourrait peut-être plus facilement alimenter des plans de retraite
collectifs. Vous êtes sûr qu'on a besoin d'épargne rendant... Parce que quand on voit les chiffres de l'épargne salariale qui devait être débloquée, en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc les Français ont peut-être assez d'argent sur leur compte.
Mais c'est une épargne de précaution par essence. C'est une épargne qui a été mise pour une vision de long terme, justement pour pallier à des baisses de revenus qui sont certaines lorsqu'on part à la retraite. Et donc, tout ce qui est plan d'épargne entreprise, plan d'épargne collectif, clairement là, généralisons la participation à toutes les entreprises, à toutes les tailles d'entreprises, ne réservons pas ça de manière obligatoire qu'à partir de 50 salariés, ça pourrait être des marqueurs pour venir un petit peu rassurer aussi les Français qui ont besoin d'avoir cette poche d'épargne constituée pour la retraite.
Arnaud Marion.
Moi, ce qui m'effare dans le débat sur les retraites, c'est que on a la chance d'avoir un débat sur les retraites. Il y a tellement de pays dans lesquels il n'y a pas de retraite. De toute façon, il faut se la constituer elle-même, soi-même par un plan de capitalisation. Et donc, on n'explique pas que peut-être qu'on a beaucoup de charges sociales, peut-être qu'il y a des sujets sur des retraites, mais c'est du salaire différé que l'on donne. La proportion, finalement, dans les revenus futurs de ceux qui vont prendre leur retraite va être, comment dirais-je, à 95% venant de leur retraite qu'ils touchent et non pas venant d'une épargne qui a été faite à côté. Donc, je pense qu'il y a déjà un problème de lexicologie par rapport à tout ça, c'est-à-dire que et il y a un problème de prise de conscience et certainement de pédagogie de la part du gouvernement et des parlementaires.
Juste une petite info sur les retraites. À l'instant, la Première ministre Elisabeth Borne dit que, écoutez bien, le report de l'âge de départ à 65 ans n'est pas un totem.
Donc, alors, ça y est, voilà, tout est ouvert.
Vous faites, pourquoi vous faites fou, Arnaud Marion?
Mais parce que on n'arrive pas à être, on n'arrive pas à avoir, comment dirais-je, un véritable horizon, et on n'arrive pas à s'y tenir. Je pense qu'il faut avoir un certain nombre de principes, créer des exceptions, alors non pas des exceptions théodules, mais liées à la pénibilité et liées à un certain nombre de situations. On le sait tous à travers les entreprises que l'on a vues. Mais à un moment, tout le monde sait que cette réforme des retraites au Parlement, entre LR et LREM, enfin, ou Renaissance, ça passe.
C'est-à-dire que vous avez l'impression que ça y est, le gouvernement recule déjà?
Oui.
Ouais, c'est le début de la négociation avant même la consultation, là.
Il est bien.
Ça négocie finalement, contrairement à ce qu'on vous disait tout à l'heure. Ça va vite.
Vous voyez.
Alors, c'est marrant parce que Arnaud Marion, lui, regrette. Vous, Philippe Villiers, vous appeliez un peu ça de vos voeux.
Ah, mais moi, l'enjeu n'est pas de regretter ou d'en avoir envie. L'enjeu, c'est d'aller au bout. Je veux dire, toute négociation est bonne quand à la fin, on arrive à la mettre en œuvre. Ouais. Et même pas à signer un accord, à mettre en œuvre, comme diraient mes enfants, pour de vrai. Et je crois que ce qui est important dans cette opération, c'est qu'on arrive à véritablement la mettre en œuvre. On entend, à force d'entendre qu'il n'y a pas d'urgence, s'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il faut qu'on arrête de procrastiner sur ce sujet.
C'est un sujet. Mais ça dépend ce qui reste, non, quand même.
Ça empêche cette réforme d'avoir un sens. Enfin, Éric hier le rappelait, on a besoin de donner du sens à cette réforme. Cette réforme des retraites, elle n'est pas là pour rien. Elle est pour assurer la pérennité de ce système de répartition. Elle est pour assurer aussi un montant minimal de retraite pour tous qui soit
1200
acceptable pour pouvoir vivre et fonctionner, pour justement pallier à des différences de retraite qui existent entre les hommes et les femmes, qui est encore très significative. Donc cette réforme, peut-être qu'il faut rappeler la raison pour laquelle on a besoin de faire ces réformes. Et c'est pas simplement un marqueur juste de calcul financier, c'est aussi.
Mais Arnaud Marion, il est contrarié. Hein. Dans les trois, c'est le plus contrarié.
Non, mais Éric Kéguer nous a dit quand même, Arnaud Marion, tout à l'heure, entre les lignes, ne la faites pas, la réforme des retraites. Il disait au gouvernement.
Il dit qu'il faut faire la réforme des retraites.
Oui, mais que pas là, pas ces jours-ci.
Ce sera jamais le moment. Il faut la faire, mais je pense que ce que personne ne dit, c'est qu'on paye très fortement une addition d'il y a 40 ans. C'est le passage de la retraite de 65 à 60 ans en 1981. Et c'est ça qui coûte cher, en fait. Parce que ça a été brutal, non financé, non prévu, au moment où les autres pays européens, eux, étaient en train de faire le chemin inverse.
Allez, deuxième recul ce matin. Donc, 65 ans, on n'est plus un totem. Et à l'instant, la Première ministre dit que ça sera présenté le 23 janvier au Conseil des ministres. On a encore reculé de 15 jours. Hein.
Bon. Vieux du 10, bon, on n'est pas quelques jours près, Philippe.
Il y en a qui est content aujourd'hui.
C'est pas du tout. Bien,
non, mais il y a de la négo, et puis Arnaud Marion qui dit, décidément, le gouvernement ne sait pas tenir une ligne.
Parce que la réunion ne s'est pas tenue, on ne négocie pas avant.
Ouais.
Je veux dire, par définition, si elle le pense et si c'est là où elle veut aboutir, qu'elle fasse sa réunion, elle est en train de casser le travail des syndicats et on est en train de parler de la non-représentativité des syndicats.
Ce qui est très compliqué, c'est d'annoncer le résultat. C'est d'annoncer le résultat du débat avant le début du match.
Il faut
quand même bien que le match ait lieu.
Bah oui.
On connaît globalement les règles du jeu, on connaît à peu près la durée du match. Laissons le match se jouer.
Bah oui, surtout que les syndicats vont arriver dans la salle en disant, ça y est, ils ont déjà cédé, on va pouvoir aller plus loin.
La méthode Macron, c'était pas complètement ça. C'était pas on discute et puis on va voir. C'est je vous ai posé tout sur la table et
moi je suis d'accord. C'est-à-dire que là, maintenant, ils rentrent dans la salle en sachant que le gouvernement a déjà reculé. Et donc, ils vont continuer, non?
Et puis vous avez la patronne de LV, Marie Tondelier, qui dit hier, de toute façon, ça se jouera pas au Parlement, ça se jouera dans la rue. Ouais. C'est quand même dommage pour un
parti politique.
qui est élu au Parlement plutôt de façon significative.
Vous voyez qu'il y a un risque social quand même, François Chollet. Et
après
d'ailleurs,
les soldes,
le FMI.
Entendu,
non, mais,
donc,
après les soldes. Non, mais le FMI quand même disait il y a deux risques pour 2023. C'est le risque environnemental et le risque social pour la croissance mondiale. Donc, quand même, il peut y avoir un risque marché.
Mais attendez, les marchés, quand vous investissez dans un milieu où il y a toujours du risque. Pas toujours là où vous l'attendez, et c'est vrai que c'est rarement le mur qu'on a prévu qui arrive en cours d'année pour refroidir les investisseurs. Il n'empêche, on démarre cet exercice avec à peu près la même recette de l'année dernière. On a encore des hausses de taux à venir, des banques centrales, ouais. Elles sont toujours là. On espère que aux États-Unis le pic d'inflation soit derrière nous et que la décrue de l'inflation soit rapide. Pour l'instant, c'est un espoir et il s'avère que l'inflation core est encore assez élevée. On est à 6%, donc c'est quand même des marqueurs encore assez forts. En Europe, il faut que ça se matérialise aussi parce que on est encore sur des niveaux à 10% qui sont très élevés pour les 12 derniers mois. Derrière ça, on aura effectivement la possibilité d'un atterrissage de l'inflation qui pourrait être rassurant pour tout le monde. Pour l'instant, on est encore dans cette phase. Donc, c'est la même équation. La BCE va monter les taux, a priori, d'une cinquantaine de points de base de février. On aura la réserve fédérale. Alors là, ça commence à être un petit peu plus nuancé dans les anticipations parce que, évidemment, la hausse, elle a pris beaucoup d'avance. Mais il n'empêche qu'on a encore ce calendrier-là devant nous, en tout cas en début d'année, mais dans le cadre d'un contexte de marché qui s'est un peu apaisé en fin d'année, notamment du fait qu'on voit les prix des intrants, des matières premières, de l'énergie, etc., qui s'est vraiment calmé.
Et puis peut-être que la Chine aussi qui se réouvre, c'est une bonne nouvelle pour les marchés. On va finir avec ce scandale des DPE, du diagnostic de performance énergétique. Une nouvelle étude ce matin que révèle BFM Business, c'est le Deloitte qui indique que 7 diagnostics sur 10 sont erronés, sont faux, avec les conséquences que l'on connaît sur la valeur des biens immobiliers qui sont l'objet de diagnostics erronés. C'est, enfin, je veux dire, on marche sur la tête là, non ?
Écoutez, nous, on travaille dans les métiers où il y a une autorité de régulation qui s'appelle l'autorité des marchés financiers. Lorsque vous faites des diagnostics de performance énergétique, peut-être qu'il faut imaginer
une autorité
de contrôle des diagnostics énergétiques, parce que le sens économique est absolument gigantesque.
Gigantesque.
Et donc,
ça définit le prix de votre bien, quand même.
Ça finit une bonne partie.
Une bonne décote.
Oui, une bonne décote du prix du bien. Donc, si c'est le hasard qui l'a défini, comme l'a rappelé votre intervenant tout à l'heure, effectivement.
Bah, il paraît que si on confiait le diagnostic de manière aléatoire, on aurait les mêmes résultats. Arnaud Marion.
Oui, mais c'est ce chiffre que j'ai trouvé fantastique.
C'est terrible quand même.
Bah, pour avoir assisté à quelques DPE récemment, depuis mon retour en France, pour des histoires d'achat et de vente de maisons, c'est quand même fait un peu au doigt mouillé.
Au doigt mouillé.
Voilà. C'est-à-dire qu'on vous pose quelques questions, mais il n'y a pas de sondage derrière le placo pour voir qu'est-ce que vous avez. Vous avez une facture ou vous n'en avez pas. Et puis, par ailleurs, il y a peut-être aussi un sujet de normes où, finalement, aujourd'hui, avec ces histoires de DPE, on vous demande de créer des bocaux dans des maisons qui ne respirent plus, d'ailleurs. Et donc, effectivement, le problème, c'est que tout ça est extrêmement décentralisé et pas très normé.